Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans l'émission Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Parcours libriste avec Françoise Conil, ingénieure en développement logiciel au CNRS, ou plutôt simplement peut-être développeuse, on verra avec elle tout à l'heure, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme en début d'émission la chronique de G, très attendue sur le métavers, et aussi en fin d'émission la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet sur l'archive HAL et la science ouverte. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. À ce propos, nous avons ouvert un questionnaire pour mieux vous connaître, auditrices et auditeurs de Libre à vous. Y répondre vous prendra 5 minutes et nous permettra d'évaluer l'impact de notre émission. C'est également une occasion pour vous de nous faire des retours et nous aider à améliorer l'émission. Vous pouvez retrouver le questionnaire sur le site de libreavoue.org. Ça vous prendra juste 5 minutes en fin d'émission pour répondre aux questions. Nous sommes mardi 17 janvier 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion. À la réalisation de l'émission du jour, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred, et je vais profiter qu'on soit encore au mois de janvier pour souhaiter à tous nos auditeurs et nos auditrices une très belle année 2023.
Eh bien merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique Les Humeurs de G. G, auteur du blog BD Grisbouille, va nous exposer son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique, il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Le thème du jour, le métavers. Bonjour G.
Bonjour Fred. Et donc salut à toi, public de Libre à vous. Alors, si je t'avais causé de métavers ou metaverse dans sa version anglaise il y a de cela tout juste 2 ou 3 ans, tu n'aurais sans doute pas eu la moindre idée de ce dont je te parlais. Pas parce que le mot n'existait pas encore, hein, il est documenté sur le Wiktionnaire depuis plus de 10 ans, mais il était encore peu utilisé jusqu'à très récemment. Et c'est sans doute principalement à Facebook que l'on doit ce soudain intérêt pour le métavers, une impression confirmée si l'on regarde les statistiques de Google sur la popularité du mot-clé. Cette popularité est très faible jusqu'en octobre 2021 où elle explose littéralement. Octobre 2021, c'est le moment où l'entreprise qui gère Facebook prend le nom de Meta et annonce son intention de se concentrer sur le développement d'un métavers. Bon là tu te dis peut-être, oula, G qui commence sa chronique en nous parlant de Facebook et de Google, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait racheter par les GAFAM ce pourri? Bon alors déjà reste poli s'il te plaît. Et non, je ne me suis évidemment pas converti aux GAFAM pendant la nuit, et si je te parle de métavers, ça n'est certainement pas pour en faire la promo. Alors, remettons les points sur les i. Pour commencer, c'est quoi le métavers? Eh bien, le Wiktionnaire dont je parlais plus tôt nous dit que c'est un univers virtuel. Point. Ouais, bon, c'est un petit peu léger comme définition. Des univers virtuels, il y en a des tonnes. N'importe quel jeu vidéo se déroule dans un univers virtuel, sans que ce soit un métavers pour autant. Au sens large, on pourrait même considérer que n'importe quelle œuvre de fiction se déroule dans un univers virtuel. Même la plus ancienne légende de la plus primitive des civilisations humaines, elle décrit souvent un univers virtuel au sens fictif. Mais le métavers, c'est bien plus que cela. C'est la contraction de méta et univers, et méta ne signifie pas virtuel. C'est un préfixe qui signifie profond ou au-delà. Quand Facebook nous promet le métavers, elle nous promet un univers qui étend le nôtre. Un univers virtuel, certes, mais qui rivalisera avec notre univers physique, et dans lequel on pourra se mouvoir et vivre, en fait. Avec la technologie des casques de réalité virtuelle, on pourrait fréquenter des amis à des kilomètres de là, comme si les distances n'existaient plus. Dans une réalité plus vraie que nature, que l'on pourrait modeler comme on le voudrait, libérer des contraintes du monde bassement physique. Ah, ça vous fait pas rêver, ça? Eh ben c'est marrant, moi non plus. Et pas juste parce que les quelques exemples de métavers qu'on a vus jusqu'à maintenant nous ont plutôt fait pleurer de rire. Oui, parce que si c'était pour nous pondre des remakes complètement pétés de Second Life avec des graphismes qui feraient honte à la PlayStation 2, c'était vraiment pas la peine de se la raconter avec des expressions nébuleuses comme métavers. Non mais surtout, parce que les casques de réalité virtuelle, quand c'est appliqué aux jeux vidéo, ça peut être rigolo. J'en ai moi-même déjà testé et ouais, c'était chouette. Mais un casque de réalité virtuelle pour accéder à des mondes factices auxquels confier nos vies, eh ben, ça n'évoque pas un imaginaire très positif en général. Bon, je m'explique. On aime souvent dire que la réalité dépasse la fiction et que la technologie d'aujourd'hui rappelle parfois la science-fiction d'hier. Par exemple, on s'émerveillait toujours de voir les personnages de SF communiquer par visiophone quand nous étions bloqués sur nos bêtes téléphones audio. Et la visio a fini par être développée et a plutôt été adoptée avec enthousiasme. Alors certes, elle n'a pas du tout remplacé le téléphone comme la SF nous le prédisait, mais elle existe et est couramment utilisée. Alors que le métavers, bah je pense que pour beaucoup de monde, ça évoque Matrix, un blockbuster assez furieusement dystopique, où le monde virtuel est une véritable prison pour l'esprit des êtres humains, qu'on garde occupés dans leur métavers, la matrice, pendant qu'on les utilise comme combustible pour alimenter des machines. Et moi, ça me rappelle aussi un bouquin que j'avais lu quand j'étais ado, un truc qui s'appelait Slum City, écrit par le français Jean-Marc Ligny. Dans Slum City, si je me souviens bien, l'humanité vivait principalement dans un métavers, branché en quasi-permanence à leur casque de réalité virtuelle, l'univers réel étant devenu considéré comme une sous-réalité. Et autant vous dire qu'à 14 ans, j'avais été assez marqué par l'histoire d'un des personnages principaux, un personnage qui finit par découvrir que ses parents sont en fait morts depuis plusieurs semaines dans le salon, bien installés dans leur fauteuil de réalité virtuelle, parce qu'ils s'y étaient tellement perdus qu'ils avaient fini par oublier leur réalité physique jusqu'à ne plus jamais se déconnecter pour se nourrir ou dormir. Bon, ça c'est mon souvenir personnel, mais des histoires comme ça, la SF en regorge. Et c'est pas un hasard. C'est qu'on sent quand même assez bien que derrière toutes les belles promesses de mondes idéaux et de libération, le métavers a tout le potentiel pour devenir une véritable prison. Dorée, peut-être, mais une prison quand même. Et il faut pas se leurrer, les expériences de confinement liées au Covid-19 n'ont rien fait pour arranger ce sentiment. Je parlais de la visio tout à l'heure, et autant la visio a été salutaire pour entretenir un semblant de relation sociale pendant les confinements, autant ça a été l'occasion d'en découvrir les limites. La visio pour le télétravail, c'est pratique, mais ça remplace difficilement une soirée canapé entre amis. Même quelqu'un comme moi, qui suis plutôt très casanier, geek, introverti, qui aime bien être seul, qui n'aime pas trop la foule, j'ai fini par me surprendre à dire des choses incroyables comme « Bon, on sort, on va voir des gens ». Alors, c'est peu dire que l'idée de me poser un casque sur le museau pour voir des avatars en 12 polygones de mes proches ne m'attire pas du tout. Surtout dans un monde qui sera, à n'en pas douter, blindé de publicité et entièrement conçu pour exploiter toujours plus nos comportements, nos données personnelles, etc. Ah bah oui, quel intérêt aurait Facebook à balancer des milliards dans un projet de métavers sinon pour ça ? Ah, autant te dire qu'aller aux toilettes pendant la pub au milieu du film, je doute que ce soit possible dans le métavers. Dans le métavers, tu seras dans la pub. Je te laisse imaginer le niveau de liberté que t'autorisera un univers entièrement façonné et contrôlé par Facebook. Fort heureusement, il semblerait que je ne sois pas le seul à faire un rejet assez viscéral à l'idée de métavers. Sans même parler des bad buzz sur la qualité risible des graphismes présentés ou les prix encore assez rédhibitoires des casques de réalité virtuelle, c'est peu dire que les projets de métavers n'attirent pas les foules. Ainsi, Horizon Worlds, le fameux métavers de Facebook, ne compte qu'environ 200 000 visites par mois. Alors certes, c'est beaucoup, mais ça reste ridicule par rapport aux 3,5 milliards de visites des autres applications du groupe, Facebook et Instagram en tête. L'action de l'entreprise Meta a d'ailleurs perdu les trois quarts de sa valeur depuis le lancement de ce métavers. C'est d'ailleurs un des points qui me rend quand même parfois optimiste sur l'emprise des GAFAM sur nos sociétés. Des fois, les GAFAM se plantent. Rappelez-vous des smartwatches, les montres intelligentes, qui étaient appelées à prendre la suite des smartphones dans la grande révolution des objets connectés, avant de faire un flop plutôt retentissant. Même chose pour les Google Glass, des lunettes connectées avec affichage de réalité augmentée, et qui n'ont jamais suscité beaucoup d'enthousiasme. Alors, restons prudents sur les prédictions hasardeuses, peut-être que le métavers finira par s'imposer, j'en sais rien. Ne sous-estimons jamais la puissance des multinationales à nous faire avaler des choses dont nous ne voulons pas, à créer des besoins, comme on dit. Pour l'instant, en tout cas, au-delà de Facebook, même d'éventuels métavers publics, dont on pourrait espérer qu'ils ne soient pas au service de la captation de données et de la publicité, peinent à convaincre les gens. Ainsi, la Commission européenne a balancé quand même 387 000 euros dans un métavers gratuit accessible à tout le monde, et qui a rassemblé pour sa soirée d'ouverture un nombre record de 5 personnes. Pas 5 000, non, 5. Bref, pour le moment, le métavers n'a pas l'air d'intéresser grand monde à part les quelques techno-béas qui continuent à penser qu'il faudrait s'échapper vers d'autres mondes, sur Mars pour Elon Musk, ou dans la réalité virtuelle pour Zuckerberg, au moment où de plus en plus de gens s'inquiètent du fait qu'il serait sans doute préférable de ne pas totalement flinguer le nôtre de monde. Alors, est-ce qu'un métavers adopté massivement serait compatible avec les objectifs de limitation du réchauffement climatique ? Personnellement, j'ai des doutes, mais je vous laisse y réfléchir et je vous dis salut.
Ben merci de nous laisser sur cette question très, très intense. Donc c'était la chronique Les Humeurs de G. Je rappelle que le site de G, c'est grisebouille.net. N'hésitez pas à aller voir pour vous amuser, pour apprendre des choses et éventuellement pour aider G dans ses activités. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons avec notre invitée Françoise Conil, qui est ingénieure logicielle au CNRS, qui sera la première invitée d'un nouveau format de sujet principal qui est Parcours Libriste. En attendant, nous allons écouter Beyond the Warriors par Guy Frog. On se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
D'écouter Beyond the Warriors par Guy Frog, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY, et j'en profite pour remercier le site auboutdufil.com qui est notre fournisseur à peu près attitré de toutes ces belles musiques libres. Sur chacune de ces musiques, vous avez en plus une description, une analyse de la musique, que ce soit par Alice ou par la personne responsable du site. Et bien, évidemment, comme j'ai rien préparé, Eric
Frodin.
Merci Étienne. Donc voilà, c'était Beyond the Warriors par Guy Frog, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY, et le site Au bout du fil, c'est auboutdufil.com tout simplement.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Cette édition de Libre à vous, donc, est la première, avec comme sujet principal un nouveau format, qu'on a intitulé Parcours Libriste. L'idée, c'est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel. Donc un parcours individuel, mais qui, bien sûr, va être l'occasion de partager des messages, suggestions et autres. Et pour cette première édition, nous avons le grand plaisir d'accueillir Françoise Conil, ingénieure en développement logiciel au CNRS. Bonjour Françoise.
Bonjour Frédéric.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Très bien ? Ok. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46. Je répète, au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors, comment on a découvert Françoise Conil ? Parce qu'une fois qu'on s'est posé la question de savoir ce nouveau format qui nous paraissait intéressant, on voulait trouver une invitée. Et il se trouve que l'an dernier, le CNRS a publié en fait une BD qui s'appelle « Les décodeuses du numérique » qui présente 12 portraits de chercheuses, enseignantes-chercheuses et ingénieurs dans les sens de l'informatique et du numérique. Et nous avions déjà reçu en septembre 2022 Sarah Cohen-Boulakia, qui est bioinformaticienne. Le sujet, c'était sur la reproductivité des environnements logiciels pour la recherche. Le podcast est disponible sur libreavoue.org/151. Et dans cette revue, il y avait une informaticienne, en l'occurrence Françoise Conil. Alors le titre, et je pense qu'on y reviendra au cours de l'émission, du portrait, c'est « Françoise Conil, codée pour un monde meilleur ». Je pense qu'à un moment ou un autre, il faudra nous expliquer ce choix de titre. Mes premières questions, alors la question traditionnelle en général c'est une courte présentation, mais en fait là le principe de l'émission c'est un petit peu de vous présenter tout au long de l'émission, mais j'ai quand même envie de vous demander comment vous vous présentez quand vous êtes dans une soirée par exemple, ou quand vous rencontrez des personnes. Qu'est-ce que vous expliquez ?
J'explique que je suis informaticienne. Souvent, je ne détaille pas si les gens ne connaissent pas forcément bien. Et bon, je peux dire que je suis au CNRS. Mais voilà, je dis juste informaticienne souvent.
D'accord. Vous ne dites pas ingénieur en développement, pourtant.
Pas toujours.
Dans la BD, c'est bien marqué ingénieur en développement logiciel. Alors pourquoi ne pas dire carrément ingénieur plutôt du terme informaticienne ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une différence ou est-ce qu'il y a une autre raison ?
Peut-être pendant longtemps, l'idée de ne pas vouloir exposer un titre, pas écraser mon homologue en lui disant moi je suis ingénieur. Voilà. Peut-être ça aussi. Oui.
D'accord, ok. Alors, on va dire votre âge exceptionnellement. Hein, on est de la même génération, vous avez 54 ans, c'est ça ?
Oui.
Voilà. Donc, on va essayer de parler un petit peu de votre parcours. On va commencer un peu par la jeunesse. Donc, dans la BD, vraiment, j'encourage les gens, en complément de l'émission, d'aller consulter cette BD. Les références sont sur le site de l'émission, libravou.org, ou sur le site de causecommune.fm. Dès le départ, il est indiqué un attrait pour les sciences, et surtout la physique et la chimie. Alors, d'où ça vient ? Est-ce que c'est un héritage familial ? Est-ce que c'est une découverte par vous-même ? Quand c'est matérialisé, cet attrait pour les sciences ? Et vers quel âge ?
Oh, alors, vers quel âge ça va être compliqué. Je pense que j'ai un père qui a fait plutôt un cursus scientifique, mais j'ai jamais été en peine sur ces matières-là, la science, la physique, tout ça, ça se passait bien. J'étais moins éventuellement à l'aise avec les matières françaises, histoire géo, etc. Donc, naturellement, je suis allée vers ce qui était le plus adapté à ce que j'étais capable de faire.
D'accord. Et est-ce que vos parents vous ont encouragé ou au contraire limité ? Quelle était leur position par rapport à ça ?
J'étais encouragée à faire, je voulais faire ingénieur, ils m'ont encouragée à le faire, il n'y a pas de souci, au contraire, mon père, évidemment, j'ai eu la chance d'avoir son aide pendant ma scolarité, parce que justement, si je calais un peu sur deux, trois questions, ça, c'est sûr qu'il était capable de m'aider, et c'était une chance.
D'accord, mais vous vous débrouillez aussi tout ça, parce que j'ai vu que dans la BD, par exemple, vous avez démonté une calculatrice. Alors, c'était quoi l'objectif de démonter cette calculatrice ? Et c'était quoi comme calculatrice ?
Une TI-57.
D'accord, donc une Texas Instruments.
Voilà, ça ressemble un peu à la calculatrice qu'on peut voir aussi. Là, c'est une HP, je crois, celle que les astronautes d'Apollo ont amenée pour faire leur voyage sur la Lune.
D'accord.
Mais voilà, donc c'était les calculatrices des années... 80, et
d'accord.
En fait, elle ne marchait plus, donc j'ai voulu la démonter, voir comment c'était fait à l'intérieur. Et puis, je n'ai pas été capable de la remonter. Donc, ça a été un peu ma première leçon. Si tu démontes quelque chose, note bien où se placent les éléments pour pouvoir être capable de remonter. Quoi.
Et mettre les vis dans un pot pour ne pas les perdre.
Voilà, là, maintenant, on a beaucoup plus de facilité avec nos smartphones pour faire une petite photo de temps en temps. Voilà. C'est vrai que c'est un peu ce qui m'est resté. Fais attention si tu démontes, d'être capable de remonter.
Par contre, aujourd'hui, les smartphones d'aujourd'hui, pour la plupart, sont juste indémontables, à part certains comme le Fairphone, par exemple, qui est conçu pour être durable et être démontable. Aujourd'hui, la plupart des smartphones ne sont pas montables. Donc, un attrait pour les sciences, surtout la mathématique physique. Donc, je suppose que, vu votre génération, vous faites un bac C.
Bien sûr.
Non, mais voilà, bac, on va dire le bac traditionnel à l'époque de maths physique, on va dire.
Parce que je préfère en plus... plutôt les maths que la physique, donc c'est plus l'orientation C qui me convenait.
Voilà, donc bac C, et après, donc, vous voulez faire, vous faites une classe prépa, vous êtes pris en classe prépa.
Alors, en fait, j'ai la possibilité d'aller en classe prépa, et j'ai la possibilité, je fais par le plus grand des hasards un dossier pour aller dans une école avec prépa intégrée, à l'INSA.
Alors, quelle est la différence entre les deux pour les personnes qui ne savent pas ?
Alors,
une prépa et une prépa intégrée ?
Si on part en classe prépa, en fait, c'était 2 à 3 ans pendant lesquels on travaille énormément pour, au final, passer des concours pour intégrer à l'issue, pour intégrer d'autres écoles d'ingénieurs. D'accord. Mais là, vous n'avez pas l'assurance de pouvoir, de savoir vers où vous allez. C'était réputé comme étant très difficile, assez. C'est des, enfin
très avec peu, enfin beaucoup de travail nécessaire personnel, ouais. Et puis très, pas, je dis pas élitiste, mais enfin un taux d'échec important. Heure,
voilà, on passait de notes à peu près normales à des cartons.
Oui, voilà.
Voilà, on savait que les têtes de classe allaient se retrouver avec 5 de moyenne, avec 5 de moyenne, et que donc ça pouvait faire peur. Moi, ça me faisait un petit peu peur.
Donc ça, c'est
et,
la prépa.
Voilà, et c'est pour ça que. Oui. Je suis plutôt allée vers cette option avec une école intégrée, c'est-à-dire que les deux années se passent, enfin tout se passe au sein de la même école.
D'accord.
Alors il y a quand même du travail pendant les deux premières années. Il y a éventuellement aussi le risque, enfin la possibilité de bah, de pas continuer si on n'arrive pas à, à avoir les bons résultats. Mais globalement, c'est plus fluide, c'est moins dur parce que en fait les cours sont faits pour on va dire, ça va être orienté par rapport aux options que l'école propose par la suite.
D'accord. Mais alors, vous avez ces deux possibilités-là, et vous avez un prof, alors c'est un prof, je suppose, en terminale
ouais.
Qui vous, dans la BD, c'est marqué, vous déconseille
oui.
De la prépa, mais dans la BD, il n'est pas expliqué pourquoi il vous déconseille. Donc, alors, pourquoi il vous déconseille
Il me déconseille d'y aller parce qu'il dit que je ne tiendrai pas la prépa.
Et pourquoi vous ne tiendriez pas la prépa?
Psychologiquement, je pense qu'il pense que je ne serais pas assez solide pour le faire. Enfin, je ne sais pas la raison, je n'ai pas l'explication, mais effectivement, moi, j'avais peur. Et il me dit, bon, je ne suis pas sûre qu'elle tiendra le choc sur cette atmosphère qui était quand même, on le sait, difficile. Donc, du coup, je fais ce choix. Bon, ce prof que j'aime beaucoup, qui nous a vraiment donné, vraiment, qui a fait des trucs très bien, je pense que j'avais confiance dans son avis.
Voilà. D'accord, mais est-ce qu'il pense, excusez-moi de vous poser la question, mais est-ce qu'il pense que vous ne tiendrez pas parce que vous êtes une femme, ou est-ce qu'il pense que vous ne tiendriez pas parce que vous êtes Françoise Conil et qu'il vous connaît? Est-ce qu'il y a...
Je penserais pas dire que lui était comme ça.
D'accord.
Non. Alors peut-être que quelque part il pourrait y avoir eu ça,
ouais.
Mais ça n'était pas perceptible.
D'accord. Ok. Et donc vous suivez son conseil,
oui,
et donc
oui.
Vous faites une prépa intégrée donc à l'INSA de Rouen, c'est
tout
ça,
à fait,
donc,
oui.
Institut national des sciences appliquées.
Oui.
D'accord. Et comment se passent les études?
Oh bah très bien. Enfin.
Excuse-moi pour le petit mot, mais oui. J'étais sur le mauvais salon. Donc là, tout d'un coup, est-ce que ça, par rapport à votre crainte par rapport à la prépa, où tout d'un coup vous passez de super notes à de mauvaises notes, à un ambiance, est-ce que ça se passe pareil?
Enfin, non. Là, les notes sont ouais. Correctes. Les matières sont beaucoup plus, évidemment, d'un coup, on a un choc hein, quand on passe du lycée aux études supérieures. Évidemment, on se retrouve avec des choses qui sont beaucoup plus pointues, directement des plus difficiles. Donc, ça fait un peu bizarre. Et puis, on s'adapte progressivement. Et puis, comme moi, ça ne m'a pas choqué sur le volume de travail. C'était absorbable, quoi. C'était pas traumatisant.
C'était pas traumatisant, c'est-à-dire c'est
ça
un
reste
niveau
pas
élevé,
quelque chose
mais
où...
qui était compatible voilà. Avec vos compétences
oui, oui.
Et votre envie de travailler. Est-ce que vous vous souvenez quelle était un peu la répartition en termes de genre dans cette école à l'époque?
On va dire que c'est
les années 85-90 hein, à peu près.
Je me rappelle pas globalement sur la promo des deux premières années. Je sais juste que quand je suis partie sur le département Matinfo, on était 25% de filles. C'est-à-dire.
Ah, d'accord.
Ouais, 6 filles, 25 garçons. On n'était pas très nombreux, mais la première.
Vous étiez plus nombreuses
à l'époque qu'aujourd'hui.
Ah,
oui, c'est catastrophique aujourd'hui. Ouais.
C'est catastrophique. En plus, avec la réforme récente du baccalauréat, oui. Où les chiffres ont considérablement de présence
c'est terrible.
De femmes. Considérablement baissé.
Oui, donc ça c'est vraiment dommage parce que c'est des matières qui sont complètement abordables et totalement adaptées à des femmes quoi. Il y a aucun on n'est pas dans un milieu industriel dur. Il n'y a rien qui empêche une femme de se lancer là-dedans quoi.
Alors, je précise que sur le salon web Marie-Odile, donc Marie-Odile Morandi, hein, qui fait notamment les transcriptions pour l'April, dit dans sa prépa en 69-70, 34 garçons et 6 filles. Vous, c'était plutôt 85-90 à peu près cette période-là, c'est ça?
Alors, la prépa, je ne saurais pas dire
d'accord.
Combien on était en répartition, parce qu'en fait, effectivement... Non,
les années, c'était...
C'était 85-90, oui, c'est ça.
D'accord. Donc, vous êtes diplômé?
Oui. Qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'à l'époque aussi, on n'avait pas l'environnement informatique. C'est-à-dire que quand j'ai commencé l'école, on avait deux salles avec des terminaux. Il n'y avait pas de micro, les micro-ordinateurs sont arrivés en fin de deuxième année et il n'y avait pas beaucoup de salles, donc difficile d'accéder aux machines. On n'avait pas d'ordinateur personnel parce que ça coûtait beaucoup trop cher. La plupart des gens n'en avaient pas. Donc, c'est pas quelque chose
qu'on
pouvait
faire. Jour et nuit.
Comment ?
C'est ouvert jour et nuit.
On pouvait y accéder, mais j'avoue que.
Moi, je vous pose la question parce qu'on a fait les mêmes études à peu près à la même période. Et moi, j'étais à la fac. Voilà. Et la fac était ouverte jour et nuit. Et nous, on venait la nuit pour avoir accès aux machines. Donc, effectivement, c'est une période où.
Si on voulait accéder aux machines, c'est vrai que ceux qui étaient, on va dire, plus. Les quelques qui étaient geeks, on va dire, il y en avait quelques-uns qui y allaient. Mais c'est vrai que c'était compliqué d'accéder aux salles dans des horaires standards. Donc, pour y accéder, il fallait y aller hors horaire standard.
Ouais.
Mais j'ai pas trop essayé.
D'accord. Et je suppose qu'à cette époque, c'est une question, parce que moi, donc à cette époque-là, à Paris 8, on n'avait pas, en première année en tout cas, on n'avait pas d'accès à Internet. Est-ce que à l'époque, vous aviez un accès à Internet à l'INSA de Grand? Non.
Non. Internet, pour moi, dans la vie professionnelle, c'est quelque chose qui est arrivé quand même beaucoup plus tard.
D'accord.
À partir des années 2000.
D'accord. Donc effectivement, on peut imaginer que c'est une autre façon d'apprendre l'informatique, une autre façon de travailler à cette époque-là, quoi. Donc, est-ce que sur cette période des études, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez aborder, points de frustration?
Ouais, allez-y. Alors, ce que j'ai abordé, comme on en a un petit peu discuté dans le parcours, ce qui au départ, j'étais pas nécessairement geek. Il y a eu des petites frustrations.
Quelle définition vous mettez au mot geek? Quelle est votre définition de geek?
Quelqu'un qui passerait un peu tout son temps libre, pour qui ce serait autant un hobby que, enfin, qui passerait énormément de temps. Donc,
d'accord,
qui aurait fait que j'aille beaucoup de nuits en salle info, ce que j'ai peut-être pas nécessairement fait. J'étais plus au début, pendant mes études, j'étais plutôt partie sur l'orientation maths. Mais après, à la sortie, il y avait peu de postes.
En fait, il y avait peu de travail disponible en maths.
Voilà, mon stage ingénieur, c'était de faire de l'analyse de données de production dans une usine de pâte à papier. Parce que j'étais partie pour faire des stats, des maths, ces choses-là. Et puis, justement, ma première frustration vis-à-vis du logiciel, c'est que ce logiciel de stats que la société avait acheté était donc un logiciel payant. Sans documentation, la documentation
donc là, on
était
parle
payante.
Dans votre première
premier stage.
Okay, d'accord.
Stage étudiant.
D'accord, ok.
Stage ingénieur. Et documentation payante. Donc moi, obligée de passer mes exemples pour voir un petit peu, identifier à quoi correspondaient quels paramètres pour tel et tel. Pour les différents traitements. Donc, j'avais pas trouvé que c'était très agréable, quoi. Donc, c'était un petit peu un premier point que j'avais trouvé négatif. Et avant de dire que j'avais une conviction, c'est plutôt un ensemble de frustrations ou de déceptions qui m'ont un petit peu marqué dans mon expérience professionnelle ou de stage, quoi.
Ouais, il y a eu pas mal de gens dans le monde du logiciel libre d'ailleurs qui disent que souvent on développe des choses là où ça nous gratte ou là où on a une frustration, en fait.
Voilà.
Donc, visiblement, vous en avez eu quelques-unes.
On
a l'occasion d'en parler. Mais ça, donc là, c'est la partie lors de votre stage. Mais sinon, finalement, vos études à l'INSA de Rouen se passent bien.
Oui.
Diplômé. Oui. Alors, vous venez de le dire, vous êtes vraiment plutôt vous maths. Donc, vous auriez bien aimé travailler en maths en sortant de l'INSA de Rouen. Mais par contre, bon, il y a moins de postes en maths qu'ailleurs. Donc, finalement, vous faites quel choix, en fait?
Finalement, à l'époque, c'était les années 90 et le marché informatique était très favorable, comme c'est là actuellement. Et donc, j'envoie quelques candidatures et on me propose de venir travailler dans une société de télécommunications. Je voulais pas trop aller à Paris, mais là, c'était en lointaine banlieue parisienne, donc. C'était un moyen d'être à Paris, mais sans y être. Et eux, de leur côté, comme c'était la lointaine banlieue, ils avaient du mal. Parce que ceux qui voulaient aller à Paris, c'était pas Paris. Ceux qui voulaient pas aller à Paris n'avaient pas envie d'y aller non plus.
C'était où, par curiosité,
à Dourdan, dans l'Essonne.
D'accord.
Et c'était un village très agréable à vivre.
Et donc là, dans une entreprise de télécommunication, quelle est votre. Une grosse entreprise, une petite
Oui, c'est le groupe Sagem.
Oui, d'accord.
C'était le groupe Sagem avec, en l'occurrence, moi, c'était la SAT, Société Anonyme des Télécommunications. Et donc, j'ai commencé par travailler sur des autocommutateurs.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un autocommutateur?
Alors, c'est un appareil qui permet de connecter tous les téléphones de l'entreprise et de gérer tout ce qui est traitement d'appels, aussi d'avoir des logiciels particuliers, par exemple, pour faire ce qu'on appelait la distribution automatique d'appels. C'est donc les centres d'appels pour gérer, par exemple, dans les hôpitaux, il y a un petit peu des fonctions particulières. Il y a Donc il y a pas mal de choses. Il faut savoir par exemple que, donc en fait, à l'époque, c'était quand même des baies. Il y avait une équipe électronique et informatique, et c'était des grosses baies avec des cartes électroniques.
Donc on va dire des grosses sortes de grosses armoires.
Ouais, comme ça quand même.
Alors on est à la radio, donc
voilà.
Je précise que François
Scully
nous fait pas. Voilà, c'est
on
un truc
dire,
de 80 cm sur
un mètre
de hauteur.
Voilà. C'était quand même des équipements qui prenaient de la place. Et par exemple, pour gérer 500 postes, on avait un million de lignes de logiciels. Donc, on ne s'imagine pas nécessairement.
C'était des lignes de logiciels qui étaient déjà écrites ou c'est des lignes de logiciels que vous avez écrites?
Non, il y avait, je crois que ce modèle d'autocommutateur sur lequel je suis arrivée avait été acquis déjà. Donc, on avait déjà acheté une partie de matériel et logiciel. Et après, nous, on développait des fonctionnalités complémentaires dessus.
Donc, ça veut dire qu'à l'époque, en fait, quand on achetait un matériel donc, qui coûtait très cher, finalement, le logiciel était livré avec. Alors, il n'était pas sous licence libre, mais par contre, vous pouviez le modifier pour l'adapter à vos besoins, c'est ça?
Alors après, moi, je ne sais pas combien... Ils ont acheté l'ensemble.
Oui,
quoi, voilà.
Bon, ils ont...
Je ne sais pas...
Il y avait le code source qui était là.
On avait le code source.
D'accord.
Et donc, on travaillait, on était une quinzaine de personnes dans l'équipe et on travaillait dessus en répartie. Et donc, en fait, on travaillait sur le même code en parallèle à 4-5 équipes. Et puis, quand il fallait faire des releases, en fait, on fusionnait le code. Donc, il y avait déjà des gestionnaires de versions. On était sur des terminaux VAX à l'époque. Voilà.
Alors, sur les gestionnaires de versions, on a consacré une émission il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas le numéro en tête, mais bon, mon réalisateur préféré va me retrouver le numéro dans quelques, dans quelques instants. Parce qu'on en a parlé, effectivement, récemment.
Juste pour informer les plus jeunes que les gestionnaires de versions ne sont pas apparus avec SVN et Git.
Exactement.
Ou même avec CVS,
ou même avec RCS avant. Alors, si ces mots ne vous disent rien, vous allez sur libreavoue.org et vous cherchez gestionnaire de versions. On l'a consacré il n'y a pas très longtemps une émission là-dessus. Tout à l'heure, vous parliez de frustration dans votre premier stage. Est-ce que vous avez eu des frustrations dans cette expérience professionnelle? Et inversement, des choses que vous avez vraiment bien aimées?
Ça, par exemple, le fait de pouvoir travailler à 15, d'avoir un logiciel que je trouvais quand même assez facile à gérer, pour gérer les releases, etc., je trouvais que c'était c'était quelque chose qui était très bien. L'équipe était très bien, était sympa, j'ai beaucoup appris, c'était vraiment très intéressant. Parce que je ne connaissais pas tout l'aspect des télécoms, m'était inconnu, je n'avais pas étudié le réseau.
Ça, vous n'aviez pas vu à l'école?
Non.
D'accord.
Donc, c'était intéressant d'intégrer ce monde-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai travaillé donc sur les autocommutateurs, puis après, j'ai changé, j'ai travaillé sur des modems ADSL ou des modems simples avec des protocoles de transfert de fichiers. Et là, j'ai eu une des frustrations, par exemple, c'était sur une application qu'on faisait sur Windows, on voulait faire du drag and drop.
Et, Du glisser-déposer.
Et donc, la partie était documentée, donc c'était du code Microsoft, et on avait la documentation du drop, mais il n'y avait pas moyen d'implémenter le drag, donc on n'avait pas le glisser. Et ça, c'était quelque chose qui était undocumented, et en fait, on voyait dans certains magazines des façons de le coder, mais... c'était pas officiellement réalisé par Microsoft, donc ils se gardaient une avance de pouvoir faire le drag E.
D'accord.
Et vous pouviez pas, si vous vouliez le mettre dans votre application, vous vous basiez sur des trucs pas documentés, quoi. Et ça, j'avais pas eu envie de dire on va faire un truc, j'ai trouvé un article, c'est trop cool dans Dr. Dobbs, on va le mettre dans le logiciel et ça marche pas dans version après. Bon,
je croyais juste que Dr. Dobbs est un... Alors, je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas à l'époque, c'était un journal dans lequel il y avait beaucoup de code, il y avait beaucoup d'informatique. Et je précise que l'émission sur les logiciels de gestion de version décentralisée, c'est dans le Libre à vous 160, donc sur libreavoue.org/160. Donc, vous avez le déposer documenté, mais pas le glisser.
Ouais.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? En quoi ça vous bloque?
J'avais juste trouvé que, puisque cette fonctionnalité, puisque ces choses-là existaient, je ne comprenais pas pourquoi les deux n'étaient pas documentés, puisque forcément, ils avaient mis en œuvre les deux. Donc, pourquoi on nous donnait pas la possibilité? Pourquoi ils ne documentaient pas les deux? Bon, après, je ne vais pas épiloguer plus que ça. Et ça, c'était un des trucs. Après, ce qu'on a pu aussi discuter, c'était la base de données que j'ai reprise. Et après, tout ce qui en découlait, là, excusez-moi, c'était... j'avais récupéré une base de données Clipper à l'époque, ça tournait sous DOS. Et il fallait la mettre sous Windows. Donc, du coup, je choisis de rester avec les outils de la même société, Computer Associates. Et, comment dire, je tombe sur plein des bugs. Donc, j'étais toute seule. À l'époque, toujours la même chose. Pas d'Internet, pas de Stack Overflow, pas tout ce qu'on veut.
Alors, Stack Overflow, c'est un site web sur lequel on trouve plein de réponses à plein de questions. Voilà. Donc, notamment technique. Enfin,
Et donc, j'appelle le support pour dire, voilà, j'ai ce problème-là. Et le support, je leur dis, comment je fais? Ils me disent, ah bah oui, ça c'est un problème connu. Je dis, ok, très bien, mais comment je fais pour pas tomber, pour pas me prendre tous les bugs qui sont déjà répertoriés? Est-ce que vous avez un endroit où vous recensez les problèmes? Et là, mon interlocuteur me dit, ah bah ça c'est l'expérience. Donc déjà, je trouve ça assez désagréable comme réponse. Et puis pas... Voilà, je me dis, bon, bah, je suis toute seule à bosser là-dessus. Moi, je n'ai pas vraiment envie de me prendre des murs comme ça. Donc, je savais à l'époque qu'on avait une alternative qui était Visual Fox Pro. Après, il y a peut-être des trucs libres, mais à l'époque, je ne le savais pas. Mmh. Et donc, je choisis de partir sur ça parce que je savais que Microsoft fournissait ce genre de choses, des bases de problèmes.
D'accord.
Qu'on recevait sur des DVD et sur lesquels, au moins, on pouvait essayer de retrouver les problèmes qu'on avait. Alors, ce que j'ai expérimenté dans cette situation-là, ça a été qu'à l'époque, on avait un contrat avec Microsoft. Alors, j'ai des chiffres en tête, j'espère qu'ils ne sont pas faux, parce que ça m'avait marqué, donc j'avais gardé ces chiffres. C'était qu'on avait un contrat où on pouvait poser 10 questions, et c'était un contrat à 100 000 francs, ce qui fait qu'une question, c'était 10 000 francs, 1 500 euros.
Donc, 1 500 euros d'aujourd'hui.
Donc, on réfléchit avant de se dire, je vais poser une question.
Avant de poser une question, oui.
Et
on paye à la question ou à la réponse reçue quand même.
Je me rends.
Ok, non. Parce que
la suite fera que bon, on n'a pas. Voilà, donc je tombe sur un bug embêtant, mais que j'arrive à reproduire dans les exemples qu'ils fournissaient. Donc je me dis, on va poser la question. En plus, c'est reproductible, ça va marcher. On pose la question, on commence à engager le processus. On me demande mon OS et plein d'informations. Je rentre un petit peu tout ça. Et puis. Là, je suis entrée dans une espèce de processus où je recevais une réponse toutes les semaines, ça c'est sûr, il y avait un suivi. Mais la première fois, c'était « Ah ben, vous ne m'avez pas donné le numéro de version d'un truc dans le coin. » Et donc voilà, donc première réponse, c'est ça. Une semaine après, c'est « Je ne reproduis pas votre problème sur Windows NT, mais j'étais sur 95, je l'avais dit. » Etc, etc. Ça dure un mois comme ça. Et puis, j'en avais un peu assez parce que
On peut comprendre, oui.
Ça ne m'avançait pas. Donc, j'apitoie un admin de ma société et il me permet de me connecter à ce qu'on appelle les BBS, c'était des serveurs.
Alors, BBS, c'est donc Built-in Board System. Et en fait, c'est des serveurs sur lesquels on se connectait via des lignes téléphoniques, à la fois pour partager des fichiers, puis aussi se connecter à des messageries pour échanger des messages avec des personnes.
Voilà.
On pouvait chatter, ouais.
Et là, c'est incroyable. Je me connecte sur ce BBS, je pose ma question, et 20 minutes après, j'ai la réponse.
Magique.
20 minutes.
La magie.
Là, c'est la magie de la communauté.
Ouais.
Là, c'est... évidemment, après, j'ai demandé à ce que la question ne soit pas décomptée de notre contrat.
Pour ne pas payer 10 000 francs.
Mais ça m'a... Voilà, ça fait partie des choses qui me sont restées très présentes. C'était cette force de la communauté qui apporte une réponse. This is a well-known bug and the workaround is...
En plus, une réponse gratuite.
Gratuite.
Et sans y passer un mois...
Voilà. Bon, après, c'est... Voilà. C'est un vécu, c'est juste que c'est cette force de la communauté qui fait qu'on a des Wikipédia qui sont des encyclopédies qui sont contrôlées par la communauté des personnes qui y contribuent et dans lesquelles on a assez confiance parce que si quelque chose d'erroné est écrit, on peut espérer que ça va être corrigé. Donc,
tout à fait, oui. Je vais juste préciser qu'il y a une question sur le salon web. L'expression faire des releases, en fait, c'est une release, c'est une nouvelle version d'un logiciel ou d'un système. Voilà, c'est juste préciser ça.
Oui.
Donc, ça, c'est votre entreprise dans le privé. Donc, vous vouliez faire des maths, vous retrouvez finalement à faire des commutateurs, de l'informatique, à découvrir les joies, entre guillemets, de travailler avec des logiciels privateurs et avec donc des supports ultra chers et qui, en plus, ne sont pas visiblement très, très efficaces.
Oui, après, je veux dire, je raconte une anecdote de frustration. J'avais le MSDN, etc. Faut pas non plus.
Le MSDN,
c'était ce que je disais, c'était le CD, la base de données des problèmes connus. C'était quand même quelque chose qui était rassurant. C'est quand même assez professionnel, donc faut pas non plus, brosser un tableau plus noir qu'il ne l'est. Mais Mais voilà, pour moi, c'était juste une petite comparaison de « tiens, c'est marrant, je pose une question sur un forum communautaire et j'ai un support intéressant. »
D'accord. Alors, avant de passer à votre parcours actuel, notamment public, on va juste faire une pause musicale dans quelques instants, mais est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur cette partie-là, cette partie donc d'expérience dans le privé, juste avant qu'on fasse la pause musicale que vous avez choisie, en plus, je précise, et qui est d'actualité. Ou sinon, on peut passer directement à la pause musicale. Hein, c'est comme vous voulez.
Oh ben je crois que non, je crois que j'ai pas. Moi je pense qu'à l'époque mon application, si on passe après dans la partie du CNRS, je vais parler de ce que je fais puis de mes implications. Mmh. À l'époque dans la société, je m'étais impliquée dans le CE pour faire des petites pour les commissions.
Dans ton comité d'entreprise.
Ouais.
D'accord. Ok, alors on va faire une pause musicale. Donc qui a été choisie, je la remercie par Françoise Codine et qui en plus en plein d'actualité. Vous allez comprendre en écoutant ce titre. Donc nous allons écouter Grève Angélique par Captain. On se retrouve dans 4 minutes. Bête boule journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Sur leurs nuages, quelques anges de passage observer les humains. Des disputes de ménage, des week-ends à la plage, pas de quoi taper des mains. Puis sur la rue, ils virent un attroupement, un cortège bruyant encadré par des agents. Une foule en délire qui marchait sans faiblir. Des anges pour réfléchir. Nous aussi on a un patron qui nous fait bosser comme des cons pour une bouchée de pain. Même si le vin coule à flot, on n'a ni arche ni radeau, on n'ira pas très loin. Leur envol et dans une course folle arrivèrent devant Dieu. On se laisse marcher sur les ailes, on en a marre de faire du zèle pour un salaire de démon. Vous avez beau être notre père, on vous jettera des saintes pierres. N'oubliez pas la pétition. On défilera dans le couloir de la mort. Sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors. Le Seigneur étonné arrêta de jardiner et prit sa plus belle voix. Les anges tombaient du nid. Comment être pas ravi d'exercer au paradis. Inutile de me faire une scène, j'ai bien compris le problème, mais je suis seul maître ici. Mon jugement final est déjà prononcé, et j'ai une armée d'anges gardiens. Votre recueil de prières peut rester dans son sanctuaire et vous hors de ma vie. Les anges se mirent à genoux et prièrent, syndicats, priez pour nous jusqu'à perte de voix. D'un geste désinvolte, Dieu les remit à l'apôtre, sobrement les congédia. Le vent de révolte devint une prise de déception. Les anges rebelles acceptèrent leur situation. Leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras. Les anges partirent déchus.
Alors, nous venons d'écouter Grève Angélique par Cap. certaines, donc disponibles sous licence libre Creative Commons, partageant les mêmes conditions CC BY SA. Et évidemment, c'est dans l'actualité, hein, la chanson parle de d'ange déchu à la fin, et je vous rappelle que donc il y a les manifestations jeudi 19 janvier 2023, enfin la première manifestation, parce que évidemment il y en aura d'autres.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre. Oui, effectivement, Étienne me rappelle qu'il y a aussi grève, effectivement, surtout grève, voilà, jeudi 19 janvier. Nous allons reprendre donc notre fil de la discussion, donc avec ce nouveau sujet principal, Parcours Libris, donc avec Françoise Conil, qui est ingénieure en développement logiciel au CNRS. Vous pouvez participer à notre conversation, je vous le rappelle, par téléphone au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Ou sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Et j'en profite avant de reprendre et d'enchaîner donc sur notre échange, pour faire un petit retour à Françoise en direct du salon. Quelqu'un donc qui nous dit, on apprend plein de choses avec le parcours de Françoise Conil, bravo à elle et bravo aussi pour cette nouvelle rubrique, c'est passionnant. Et effectivement, je trouve ça passionnant. Alors juste avant la pause musicale, on en était donc dans votre parcours aux activités, on va dire, dans le privé. Et puis finalement, à un moment, comme l'explique, je le rappelle, la super BD, les décodeuses du numérique, donc du CNRS, à un moment, vous allez candidater donc pour un poste au CNRS. Alors déjà, première question, pourquoi tout d'un coup vous dites je veux aller travailler au CNRS ?
Alors c'était, à l'époque, donc j'étais dans les télécoms, je suis mon mari qui est recruté par une entreprise sur Lyon, dans les années 2001-2002, et on a l'éclatement de la bulle télécom, la bulle internet. Et là, je passe à une période très compliquée où j'envoie des centaines de lettres de candidature et on va dire que les postes plus télécom étaient éventuellement plutôt à Grenoble et puis en plus le secteur était très touché et je n'arrive pas à trouver facilement du travail à Lyon et au bout d'un moment je découvre que effectivement il y a des concours pour le CNRS et je passe le concours en ne croyant pas nécessairement à mes chances parce que beaucoup de gens me disent tu sais souvent les postes ils sont déjà
attribués en fait
déjà pourvus ou il y a déjà des gens sur le coup ça, voilà. Alors pour y être parfois c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont sur des CDD des choses comme ça et donc c'est vrai qu'il y a déjà des gens qui sont parfois dans la place et donc qui pratiquent déjà le poste ou l'émission. Donc mais c'est pas une obligation et donc moi j'y vais mais de manière assez décontractée parce qu'on me dit tout le monde me dit de toute façon ça va pas forcément fonctionner et en fait non, ça a très bien marché.
Alors d'ailleurs, dans la BD, vous dites, alors c'est page 46, hein, en 2004, j'ai passé un concours pour entrer au CNRS. En tant qu'ingénieur, malgré mon syndrome de l'imposture et ma timidité, je l'ai eu. Donc vous aviez à la fois ce syndrome de l'imposture, la timidité, j'ai envie de vous l'avez encore ou pas ?
Oui.
Voilà.
Ça reste. Ça reste, mais on voit de plus en plus, alors je sais que souvent on dit que c'est assez répandu chez les femmes, et je pense que, j'ai l'impression que c'est quand même assez répandu dans les gens que je pourrais côtoyer. Mais on s'aperçoit aussi, petit à petit, je relève des témoignages, comme on disait, d'assistants, de gens qui ont travaillé, par exemple, avec Bertrand Tavernier pour faire des films.
Donc, le réalisateur.
Je sais plus si c'était des dialoguistes, des scénaristes, je me rappelle plus, mais quelqu'un qui faisait du très bon travail. Et Tavernier racontait, mais il part 10 fois, il a donné sa dème 10 fois. Il dit, je vais pas y arriver, c'est trop pour moi. Et c'est incroyable de se dire que quelqu'un qui est à ce niveau-là, a aussi des doutes. Et en fait, plus ça va, plus je relève aussi dans des belles carrières des gens qui, en fait, ont aussi ces doutes. Et je trouve que c'est important de dire que même si ça a marché, même si on a réussi, il y a aussi des moments de doute parfois. Et que même les gens qui réussissent bien, c'est bien quand on voit que ça existe chez tout le monde. Peut-être pas chez tout le monde, mais chez un certain nombre.
Alors justement, par rapport à ça, donc vous répondez indirectement à la question, mais je vais la relier, sur le syndrome de l'imposture, est-ce dû au genre féminin ou pas ?
Je pense qu'il y a question. Beaucoup de femmes qui ont un manque de confiance. Enfin, je le pense. Enfin, on est plusieurs à le penser. Quand même, de manquer de confiance. Est-ce que c'est lié alors à des vécus, hein, parce que comme je disais dans mon école d'ingénieur, la première année, un prof d'informatique nous a dit les filles ne comprendront jamais rien à l'informatique, j'en veux pour preuve la moyenne des filles versus la moyenne des garçons.
Ah ouais.
Bon, moi j'ai trouvé que c'était un peu trop gros pour que j'y accorde de crédit, mais voilà, c'est, si vous avez, vous voyez, des petits messages comme ça, ouais, au fil du temps, des petites remarques.
Ça s'imprègne dans le cerveau.
Quand j'étais dans le privé, je décroche le téléphone d'un collègue et la personne qui est en face me dit « Je veux parler avec monsieur machin, je dis pas, il n'est pas là, mais vous n'avez qu'à prendre son agenda. »
Ah, et donc c'est pour vous supposons que j'étais son assistante.
Ce genre de choses auxquelles on peut être confronté voilà, au fil du temps. Bon,
d'accord.
Évidemment, ça énerve, mais voilà, est-ce que ça n'a pas un impact quelque part dans la confiance aussi? C'est possible.
Ouais. Alors, le CNRS, donc c'est Centre National de la Recherche Scientifique. Donc, vous travaillez avec des chercheuses et des chercheurs. Donc, c'est quoi votre activité, en fait? C'est quoi votre job,
en gros, au démarrage, mon job était plutôt de m'occuper du parc informatique, donc des différents ordinateurs, installer, réinstaller, mettre le matériel à disposition, et de travailler sur le système d'information et donc sur le site, notamment le site web. Je m'occupais du site. Pendant longtemps, je me suis occupée de faire évoluer le site web du labo pendant plusieurs années. Et puis, j'ai aussi une mission qui est de travailler. Donc, c'est un laboratoire de recherche en informatique. Donc, ça, c'est passionnant parce qu'on est avec des chercheurs informaticiens et c'est extrêmement riche, quoi. Donc, la troisième mission, c'est de travailler sur les projets de recherche des chercheurs et donc de développer les parties, soit qui sont pas les parties qui comportent la partie recherche, soit de packager, soit de travailler à la reproductibilité du code. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire pour que eux puissent se concentrer sur la partie d'algorithmes et de leur recherche.
D'accord, donc vous apportez la compétence ou l'expertise informatique. Est-ce que vous utilisez des langages de programmation particuliers, des environnements particuliers pour ça?
Alors c'est en arrivant effectivement au CNRS que j'ai beaucoup plus baigné dans le logiciel libre. Donc c'est là que effectivement
c'est là que vous l'avez découvert en
c'est là que j'ai eu l'occasion voilà de le découvrir et de commencer à me former enfin du moins à prendre des connaissances dessus. Donc les serveurs étaient sous Debian, donc une distribution libre. Et puis bon, après il y avait les postes, c'était bon, il y avait souvent Windows et éventuellement il y avait un double boot. Je me rappelle plus si c'était Debian à l'époque aussi, mais voilà.
Alors, le double boot, ça permet de démarrer l'ordinateur sur un système ou un autre. Donc c'est pratique, par exemple, si on veut migrer vers un système libre, mais tout en gardant un environnement privateur tel que Windows pour tester. Et en langage de programmation.
Alors les langages, là c'est extrêmement variable hein, parce que ça dépend complètement de chaque chercheur. Mais moi j'ai essentiellement, j'ai fait du. Dans le privé, j'ai beaucoup travaillé en C, en Pascal. Et dans le public, là, j'ai un peu fait de C++. J'ai fait du Python pas mal. Du Python.
Et est-ce que ces langages, vous les aviez appris à l'école ou pas?
Le C, on avait fait du C.
D'accord. Mais finalement, les autres, vous les avez appris après, en
fait.
D'accord.
Oui, toujours, de toute façon. Après,
c'est intéressant parce que dans le métier de l'informatique, justement, il y a une évolution constante.
C'est tout le temps en mouvement.
Voilà.
C'est tout le temps en mouvement.
C'est bien ou c'est mal, d'ailleurs? Est-ce que ça,
c'est passionnant.
Voilà.
Alors,
voilà,
c'est en même temps, il y a deux côtés. C'est passionnant parce que c'est pas statique et ça peut être fatigant parce que parfois ça change trop haut, ça va vite. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais parlé d'une musique qui s'appelait Trop vite. Et parfois, voilà, il y a des modes, et puis ces modes, elles passent aussi. Donc, on a parfois le sentiment d'une accélération de quelque chose qui va très vite quand même. Mais c'est très intéressant, quoi, parce que justement, on apprend tout le temps. Et puis, l'informatique est un métier créatif, parce qu'on imagine, on doit réfléchir à ce qu'on va créer, à ce qu'on va coder. Donc, c'est vraiment très, très satisfaisant de ce point de vue-là.
Alors, tout à l'heure, dans l'entreprise privée, vous disiez que vous étiez en équipe pour travailler sur le code. Là, au CNRS, dans ce labo, est-ce que vous êtes toute seule dans la partie informatique ou est-ce que vous travaillez avec d'autres collègues?
Alors, c'est assez variable. Souvent, on n'est quand même pas très nombreux sur les projets parce qu'en fait, par exemple, dans mon laboratoire, on est 350. Donc il y a peut-être une dizaine d'ingénieurs maintenant, enfin ce qui a évolué au fil du temps. Et donc pour travailler sur les projets des chercheurs, s'occuper du système d'information, etc. Bon, ça fait pas forcément des gens à mettre en continu partout. Donc en fait, on est rarement deux ingénieurs sur une même mission et on travaille plutôt en petite équipe avec les chercheurs, les doctorants, les post-doctorants, les étudiants. Voilà.
D'accord.
Donc c'est plutôt des plus petites équipes que ce que j'ai pu faire dans l'industrie.
D'accord. Et vous imaginez ce métier de développeuse, vous imaginez le faire jusqu'à la fin ou parce qu'en fait, pas souvent, mais de temps en temps, il y a quand même des gens qui disent le métier de développement, c'est juste une étape avant de passer à autre chose, machin. Alors que vous, j'ai l'impression que vous le considérez vraiment comme une activité bon, qui vous passionne, que vous avez envie de faire jusqu'à la fin, entre guillemets, quoi.
En fait, oui, ça me plaît. C'est d'autant plus maintenant qu'on a Internet et tout ce qui est logiciel libre, parce qu'on a en fait une richesse de ressources, en fait une richesse de logiciels libres, une richesse de projets ouverts dont on peut voir le code et sur lequel on peut apprendre des tas de choses, une richesse de systèmes de formation, c'est-à-dire des MOOC, des Wikipédia, des blogs. C'est des cours en ligne, massive open online courseware.
Voilà, donc des cours massifs en ligne qui permettent de suivre des cours sur différents sujets.
Donc, par exemple, vous avez France Université Numérique où vous avez plein de cours en ligne sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Vous avez beaucoup de ressources, comme je disais tout à l'heure, mais grâce à Internet, on peut trouver des solutions, enfin des réponses, enfin on peut au moins explorer, moins se sentir bloqué qu'à une certaine époque où on n'avait pas tous ces outils de communication. Et ça reste un métier où on a la satisfaction de créer des applications et parfois de pouvoir créer des choses qui sont utiles à la société, puisque avec Sarah, que vous avez invitée ici, on a eu l'occasion de travailler sur un projet de données Covid. Pour l'INSERM, pendant la pandémie, où on a aidé un laboratoire qui avait en fait des processus assez manuels de récupération de données et qui, en fait, au moment de la pandémie, s'est retrouvé à pas passer à l'échelle parce qu'ils avaient besoin de récupérer les métadonnées, donc c'est les données sur les protocoles d'essais cliniques, et ils analysent un peu les essais cliniques qui sont faits dans le monde. Donc, il y a des registres qui sont nationaux ou multinationaux. Et en fait, ils vont les récupérer, tout ce qui a été fait un peu dans le monde, pour voir, par exemple, si, eh ben, au hasard, l'hydroxychloroquine, ça marche ou ça marche pas, quoi. D'accord. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils récupéraient, on dirait, un CSV de l'OMS. Et après, ils allaient chercher des données complémentaires et sur les différents registres. Mais ça, ils le faisaient à la main. Pour les recherches de données complémentaires, ce qui était donc laborieux, puis ça passait plus avec la pandémie, il y a eu une explosion des études, évidemment. Et donc là, le CNRS a proposé, ils ont demandé de l'aide au CNRS, qui a accepté que le personnel qui travaille dans ces unités collabore sur ces projets. Alors, on a des personnels qui, comme moi, sont CNRS, mais on a aussi des gens qui travaillent dans les laboratoires, dont le CNRS est la tutelle, mais qui sont des personnels de l'université. Et c'est là qu'on a travaillé avec Sarah sur ce projet.
Alors, c'est Sarah Cohen-Boulakia, je rappelle. Avant de poser une question en réaction, et puis vous permettre aussi de respirer un petit peu, CSV de l'OMS, donc l'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, et CSV, c'est un format de fichier, en gros, c'est un tableur dans lequel il y a un certain nombre de données avec un certain nombre de formats qui permettent ça d'importer dans différents logiciels. Je sais plus quelle expression vous avez employée à l'instant, il y a quelques instants, mais ça m'a fait penser au titre d'introduction de la BD. Alors, je suppose que c'est pas vous qui l'avez choisi, parce que, en général, c'est pas les personnes qui sont interviewées qui choisissent les titres, mais j'ai trouvé ça intéressant, et je vais le redire, c'est Françoise Conil, codé pour un monde meilleur. Est-ce que donc, vous retrouvez dans cette définition, et que finalement, si je comprends bien, le fait d'avoir un impact sociétal, politique sur le monde est important pour vous?
Oui. C'est une motivation, ça c'est clair.
Une grande motivation.
C'est-à-dire que voilà, j'ai aucune envie de travailler pour un organisme qui collecterait des données privées et qui ça me ferait pas plaisir. Après, forcément, Il y a des moments, on est amené dans son travail à travailler sur des projets qui nous plaisent plus ou moins. Donc ça, je jette pas la pierre non plus, c'est trop facile. Mais je préfère avoir. Enfin, je suis ravie d'avoir eu l'opportunité de travailler sur des projets utiles à la communauté.
D'accord. Est-ce que vous considérez, enfin la réponse va être oui, parce que là je lis encore une fois la bande dessinée, je suis une grande militante du logiciel libre.
Alors...
Donc comment ça se matérialise, cette militance?
Alors en fait, ça, disons que quand on utilise, enfin c'est vrai que ce soit pour ma machine, pour tout à titre personnel comme à titre professionnel, j'utilise du logiciel libre. Et c'est vrai que je trouve que ça répond très bien aux besoins que j'ai, ça permet de faire quand même tout ce dont j'ai besoin. Donc, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas, je ne souhaite pas utiliser des logiciels fermés ou des logiciels dont on sait que ils accaparent beaucoup de données personnelles dans un but qui me plairait pas nécessairement. C'est pour ça que j'aime pas qu'on m'envoie des liens à Zoom, j'aime pas que qu'on m'envoie un DocX. Moi, par exemple, j'utilise LibreOffice, mais si j'envoie un mail à quelqu'un dont je ne sais pas s'il a le logiciel, je vais lui envoyer un PDF. Donc, la chose que je propose, c'est que les gens n'envoient pas un format fermé. Bon, même si LibreOffice va arriver à l'ouvrir, mais en fait, c'est quand on a des alternatives. Bon, après, quand on a des alternatives qui fonctionnent bien, j'aime autant qu'on utilise des solutions ouvertes comme BBB, comme l'équipe. Enfin, on a des Jitsi au sein de l'ESR qui marchent très bien. Enfin, voilà. Alors, sur un petit nombre. Oui. Je peux comprendre après aussi que sur des besoins particuliers, on puisse faire des choix particuliers, mais souvent, on n'est pas de 100 personnes, quoi. Enfin,
oui, tout à fait.
Sauf pour les cours.
Alors, je vais juste préciser, donc BBB et Jitsi, ce sont deux logiciels libres de visioconférence et ESR, je suppose que c'est enseignement supérieur et la recherche. Voilà. Alors, comment ça se passe, cette militance? Là, c'est une militance un peu professionnelle, et puis, si vous voulez, vous pouvez l'enlever.
Hein, je vais le faire.
Voilà, je vous dis, parce que voilà, problème de respiration, donc je dis à Françoise qu'elle peut enlever son masque, ça sera plus simple. Donc là, oui, on parlait un peu de militance, notamment. Comment ça se passe, parce que la militance au sein de la famille? Est-ce qu'il y a une militance au sein de la famille, par rapport avec votre mari et vos enfants?
Oui, oui, en fait, au bout d'un moment, quand j'étais assez surtout quand sont apparues des distributions comme Ubuntu qui facilitaient l'installation, donc j'ai choisi de faire l'installation d'installer les postes de la maison avec ce système d'exploitation. Et donc, bien sûr, à la maison, c'est Ubuntu, c'est LibreOffice, etc. Donc, pour mon mari, c'est bien passé. On va dire que le meilleur allié, ça a été Windows Vista, qui était sur le portable qu'on avait acheté. Donc, c'était une version de Windows.
Ouais.
Qui a été très mal vécu par beaucoup d'utilisateurs. Et mon mari m'a dit, tu m'as parlé d'un truc là. Donc j'ai dit, si tu veux, on installe. Donc le meilleur allié pour la bascule a été clairement ça. Et puis après, la difficulté que j'ai eue, ça a été, quand les enfants ils sont amenés au lycée, collège, à collaborer avec les autres pour faire des documents communs. Et bien souvent, c'est pas mes enfants qui ont choisi forcément d'être dans cet environnement-là. Donc, ils me reprochent qu'éventuellement, le docx, s'ils arrivent pas bien à l'éditer, c'est tout cassé après, etc. Donc,
ou inversement, quand ils envoient un fichier, les autres ne savent pas.
Voilà. Et comme c'est pas eux qui sont à la source du militantisme, forcément, ils vont pas, forcément de dire aux autres, mais t'as qu'à installer. Bon, c'était normal. Donc, c'était une période qui était peut-être où ça les a un peu contrariés sur ces moments-là où ils avaient à faire ça. Mais je pense que maintenant, on a des solutions aussi où les enfants, ils pourraient travailler sur des Nextcloud, des OnlyOffice, où ils pourraient collaborer avec des solutions en ligne et libres et ne plus forcément avoir ces problèmes-là, quoi.
D'autant plus, je te passe la parole, Gigi, après. D'autant plus qu'actuellement, l'éducation nationale propose des applications basées sur Nextcloud, donc qui est un outil de gestion de documents, de fichiers, etc. en ligne, offert, disponible pour les enseignants et pour les élèves. Mais tu voulais réagir, poser une question,
oui,
Gigi, je ne sais pas.
Je voulais demander, parce que moi aussi, j'ai ce truc d'installer, bien sûr, Linux un peu partout. Et est-ce que ça vous met pas dans une position quand même de devenir la mainteneuse générale de l'informatique à la maison?
Si.
Parce que moi, je fais ça chez moi, mais je l'ai jamais fait pour ma famille un peu plus, bon, par exemple pour mes parents ou ma sœur, parce que j'ai peur justement de devenir la personne référente. En général, les gens qui ont un Windows se débrouillent un peu par eux-mêmes, puis tout le monde a un peu Windows. Et quand il y a Linux, on devient un peu la personne. Voir.
Alors effectivement, j'ai pas fait sur un cercle large parce que c'est oui. Voilà, ça poserait ce problème. Par contre, le vécu, pour mes enfants qui eux ont terminé leurs études supérieures, j'avais quand même pas été méchante jusqu'au bout. J'avais acheté une box. Ils avaient quand même la possibilité de jouer à des jeux sur une box pour avoir quand même pas leur enlever tout. Quand ils ont fait leurs études, on leur a acheté un portable, et puis donc au début, ils étaient très contents, ils avaient Windows dessus, enfin, vous allez pouvoir avoir les mêmes outils que les autres et tout ça. Au bout de 6 mois, mes deux enfants ont installé un double boot, comme on disait, pour pouvoir travailler sous Windows. Il faut voir aussi que parfois dans les études, on a besoin de certains logiciels un peu particuliers qui sont utilisés en enseignement et qui vont éventuellement tourner sous Windows. Mais voilà, donc après, mon fils continue à tourner maintenant en Ubuntu. Et ma fille est passée plutôt sur Mac pour des facilités parce que c'est plus simple pour elle. Mais par contre, elle sait qu'il y a mes enfants savent qu'il y a ces alternatives. Et donc, par exemple, quand elle veut faire certains documents, elle utilise Scribus. Donc, en fait, ils savent qu'il y a ce que c'est que le logiciel libre. Ils savent qu'il y a des choix. Ils savent qu'ils peuvent faire des choix. Et c'est ça que j'aimerais que tout le monde puisse avoir, quoi.
Alors, je précise juste que Scribus, c'est un logiciel libre de mise en page. Alors, quand vous dites que vous aimeriez que tout le monde puisse savoir que ça existe, est-ce que vous pensez précisément, plus spécifiquement à l'école?
Oui, clairement que on fasse attention de ne pas enfermer, enfermer les gens dans un monosystème où justement ils ne sauraient pas qu'il y a des alternatives existantes qui sont peut-être moins connues. On sait qu'il y a, je pense que la plupart des gens savent qu'il y a des Windows et du Mac, mais beaucoup dans le grand public ne savent pas nécessairement ce que c'est que Linux ou les possibilités qu'il y a ou comment ça fonctionne. Et je pense que s'ils voyaient, c'est pas que ça serait facile, peut-être qu'ils feront pas ce choix, mais à un moment, on sait que ça existe. Comme moi, au début, au début, il y avait Linux, qu'il fallait le compiler, etc. Enfin, c'était pas évident. Moi, j'avais pas choisi de plonger à ce moment-là vers le logiciel libre. Mais quand c'est devenu plus facile, de mon point de vue, j'ai pu y passer. Après, j'avais acquis des compétences. J'ai la chance d'avoir pu les acquérir aussi dans mon boulot. Ça, c'est faut reconnaître. Mais on a aussi les install parties qui se déroulent dans différentes villes pour aider les gens à appréhender, à découvrir, pas forcément changer leur système, mais au moins des fois savoir qu'ils peuvent installer un certain nombre de logiciels qui sont libres et qui existent. Donc je pense que c'est bien que les personnes sachent qu'il y a des logiciels qu'ils peuvent acheter, mais il y a aussi des options libres qu'ils peuvent tester et évaluer, voir si ça répond à leurs besoins.
Je précise que les install parties, c'est des événements où en fait vous avez des gens qui connaissent qui connaissent bien les logiciels libres, qui vous accueillent pour vous aider en fait à une prise en main de logiciels libres, soit d'installer des logiciels libres, soit d'installer complètement un système, et surtout qui vous font l'accompagnement des premiers pas, et que si vous allez sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, vous pourrez trouver un certain nombre d'événements de ce genre, notamment il y en aura beaucoup en mars et en avril dans le cadre du libre en fait, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors le temps passe très vite à la radio, comme je vous l'avais dit, ça file. Il nous reste quelques minutes tout de même quand même. On a mis sur la page web de l'émission, donc sur libreavoue.org, sur causecommune.fm, aussi un certain nombre d'activités que participations auxquelles vous faites. On va pas toutes les lister parce que on aura une deuxième émission, mais peut-être par exemple les actions de médiation de votre laboratoire avec notamment je vois présentation de votre métier des élèves de 3e en stage d'observation. Oui. Comment ça se passe? Qui vous accueillez?
Alors on accueille des élèves de 3e, soit souvent, évidemment, comme dans beaucoup d'endroits, ça va être des enfants du personnel, ça va être des enfants des voisins, des connaissances qui disent « Tiens, mon fils, il a envie de voir l'informatique » ou « Ma fille ». Enfin bon, malheureusement, c'est souvent mon fils, c'est beaucoup moins souvent ma fille, et ça fait partie des choses, enfin, des pas des Voilà, c'est des actions que je veux essayer de favoriser, là, d'essayer d'accueillir plus de filles à ce stade-là pour qu'elles découvrent ce qu'est l'informatique, qui y travaille. Ben justement, comme pour la BD, qu'elle voit que les profils, il y a plein de femmes qui y travaillent, que c'est pas réservé aux hommes. Et donc, on leur montre les différents aspects. On va leur montrer le système d'information. Moi, je vais leur expliquer quels sont mes outils en tant que développeuse, quels sont les outils que j'utilise. Je vais leur parler. On va faire un petit peu de programmation web. Dans un temps, pendant longtemps, on avait fait du Scratch. Maintenant, Scratch, j'ai aussi formé quelques professeurs de collège. Scratch, maintenant, c'est utilisé à l'école. Donc, on va pas leur refaire ce qu'ils font déjà. Mais on essaye de leur présenter un petit peu de Python. Ça va être un peu de manipulation de données maintenant aussi. Et je suis ouverte à toute idée. Puis après, montrer aussi les plateformes du laboratoire, nos serveurs, comment on les fonctionne. J'ai des collègues, les administrateurs, ils vont par exemple démonter un disque dur. Et on va voir comment c'est fait pour ces anciens disques durs, mais oui. Maintenant ça change, ça va être des SSD, ce sera peut-être moins visible. Mais on peut faire tout un tas de choses assez concrètes pour leur montrer on peut montrer les métiers du laboratoire aussi. On a tous les gestionnaires administratifs aussi, voir un peu qu'est-ce qu'ils font au quotidien dans la gestion du laboratoire. Donc on leur montre, c'est un stage d'observation, on peut leur faire un petit peu maniper s'ils en ont envie, et si on peut, si on a les machines, voilà.
D'accord, donc vous êtes aussi une militante à ce niveau-là quelque part, et j'ai juste précisé que Scratch, c'est un logiciel libre d'apprentissage de la programmation de manière graphique, visuelle, qui est développé par le MIT, l'Institut de Technologie du Massachusetts. Oh là, non, c'est pas comme ça que ça se prononce. Mais les auditeurs et auditrices ont l'habitude de mon anglais, donc. Alors, le temps file très vite, je suis pas sûr qu'on va faire une pause musicale après, donc je préviens la régie et la personne qui intervient après. Avant de vous poser un peu la question de... Est-ce que vous auriez un dernier sujet que vous voulez aborder rapidement avant qu'on passe à la question Parce qu'en fait, je précise quand même qu'elle avait préparé beaucoup de sujets, Françoise, et peut-être qu'elle reviendra pour approfondir.
Dans les activités de médiation, allez-y. On a aussi tout ce qui est informatique sans ordinateur, informatique débranchée, où on montre un peu les concepts informatiques, mais sans le faire sur ordinateur. Et c'est assez sympa de faire ça. Bon, ça fait partie des liens que je vous ai transmis. Et puis, bien sûr, il y a des associations comme Filles et Sciences, etc., où il s'agit d'accueillir des lycéennes et de leur montrer, de leur parler de notre parcours, comme je fais là. Et puis de montrer qu'effectivement, c'est pas réservé à un genre.
Un genre, effectivement. Voilà. Et c'est vraiment très, très important de faire ce genre de choses. D'ailleurs, bientôt, on aura une émission sur le recrutement en informatique, comment engager des femmes et comment les garder, parce que c'est aussi la difficulté, c'est de les garder, mais ça sera la date n'est pas encore fixée, mais évidemment, on vous tiendra au courant. Alors, je sais que la question est toujours délicate, la dernière question, ou plutôt là, ça va être l'avant-dernière, mais est-ce qu'en moins de 2 minutes, vous avez, ou c'est l'occasion, allez, je vais pas poser la question vite, mais en général, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'en moins de 2 minutes, vous pouvez résumer les principaux messages que vous vouliez faire passer? Finalement, qu'est-ce qui vous tient à cœur?
Je vais dire autour du livre, ce que j'ai apprécié autour du livre, c'est l'ouverture, la liberté et la richesse qu'apportent les logiciels libres, les encyclopédies en ligne, tout ce qu'on peut avoir actuellement accès. Ce sont aussi des logiciels dans lesquels on peut avoir plus confiance pour le respect de la vie privée. On en parle beaucoup là de la collecte des données. Si vous vous connectez à des sites web et que vous êtes obligé de décocher 40 cases de partenaires commerciaux, c'est quand même des choses qui sont pas très agréables. Ça permet de développer la curiosité parce qu'on a accès à beaucoup de choses et voilà. Après, je dirais aussi une chose. Soyez bienveillants avec les personnes qui proposent et maintiennent les logiciels libres parce que, on ne peut pas exiger d'eux qu'ils corrigent ça, qu'ils fassent évoluer telle ou telle chose. Ce sont souvent des gens qui le font pas de façon professionnelle, qui le font sur leur temps libre. Donc, gardez ça en tête, quand vous utilisez un logiciel libre, c'est pas un dû d'exiger des fonctions, des évolutions et des corrections.
C'est un beau rappel. Alors, la dernière question qu'on pose rarement, mais vu le thématique parcours libriste, ça me paraissait intéressant. Est-ce que vous auriez un ou deux conseils, que ce soit de lecture ou de podcast, alors que ce soit en rapport avec votre activité, avec le libre ou Faites-vous plaisir.
Alors, j'ai, on va dire, un petit livre, un vieux livre de science-fiction qui date, je crois, des années 50, de Marion Zimmer Bradley, qui a été cité dans une conf et que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui s'appelle La Vague Montante. Donc, ce sont des humains qui quittent la Terre et qui vont sur une autre planète, leur vaisseau est endommagé par le voyage. Donc, sur cette planète, ils mettront longtemps avant de pouvoir remettre le vaisseau en service et ils reviennent sur la Terre quelques siècles plus tard, au moins quelques siècles. Et après, ils se pensent que la Terre est devenue encore plus évoluée, etc. Et on va voir ce qu'ils découvrent. C'est un livre qui est très court, il fait 130 pages, et c'est très sympa à lire. Voilà.
D'accord. Et un deuxième éventuellement, conseil
En ce moment, je suis en train de regarder une série qui s'appelle OVNI, qui est sur un bureau de signalement des phénomènes OVNI qui seraient au CNES. Et ça, c'est une série qui se passe dans les années 70-80. Donc, c'est rigolo parce qu'il y a plein de clins d'œil à une époque qu'on a vécue et que j'ai trouvé très rigolote et puis pas angoissante, plutôt rigolote. Quoi.
D'accord, je ne la connais pas, mais j'ai entendu beaucoup de bien des gens. Voilà, donc OVNI, voilà. Et moi, donc, je vous conseille la lecture et des Décodeuses du numérique qui est publiée aux éditions CNRS. Le livre vaut, la BD vaut 6 euros. Il y a 12 portraits de femmes vraiment très diverses, très variées. C'est vraiment très, très bien. Vous pouvez l'acheter pour le lire et aussi l'offrir. Moi, je l'ai offert à plusieurs personnes. Et franchement, le format, en plus, c'est vraiment... À la fois, les histoires sont passionnantes. L'illustratrice est de grand talent. Elle a su mettre aussi une pointe d'humour dans tout ça. Donc, vraiment, c'est à conseiller.
Voilà. Et sachez aussi, quand même, si vous ne pouvez pas l'acheter, qu'elle est accessible sur le site des Décodeuses du numérique au format PDF.
Effectivement.
Et j'ajoute que Léa Castor est quelqu'un de formidable, qui est très militante et que sa BD suivante est sur l'IVG.
Très très bien. Alors dernière question, parce que visiblement notre libraire qui écoute, donc Bouquinette, a écouté de façon pas totalement elle demande, c'est quoi le titre du livre de Marion Zimmer Bradley?
La vague montante.
La vague montante, Bouquinette, donc je salue, qui est libraire et qui est aussi présidente de l'April, donc voilà, on la salue. Écoutez, franchement, Françoise, je pense que ça sera partagé ce que je vais dire. J'ai trouvé passionnant cet échange. Je vous remercie. Alors, je vous remercie d'autant plus d'avoir été la première à accepter ce nouveau format, malgré, comme vous le disiez tout à l'heure, votre timidité, malgré le fait que ce soit vraiment toujours compliqué de parler de soi, évidemment. Donc, franchement, j'aimerais pas être à votre place, en fait. Franchement, ça a été super. Je vous remercie.
Merci à vous.
Voilà. Et donc, on va pas faire de pause musicale, vu qu'on a un petit peu dépassé. On va simplement faire le jingle, le temps de récupérer notre intervenant suivant. Texte, image, vidéo ou base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les autrices et auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Le thème du jour, l'archive HAL. Ainsi que c'est HAL et la science ouverte en mémoire d'Aaron Swartz. Jean-Christophe, tu es au téléphone ?
Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes et bonne année pour commencer. Aaron Swartz était un fervent défenseur des libertés numériques et de la culture libre. À peine âgé de 13 ans, il reçoit le prix de l'Ars Digita Prize pour son projet de Info Network, une encyclopédie éditée par les internautes avant l'invention de Wikipédia. Il est l'auteur de nombreux textes sur les enjeux sociétaux du droit d'auteur et la liberté d'accès à la connaissance. Il participe également à la rédaction des licences Creative Commons. C'est un précurseur de l'open data et de la science ouverte. Il télécharge plusieurs millions d'articles scientifiques disponibles sur le site Jupyter pour les mettre gratuitement à la disposition de tous. Cette action lui vaut un procès pour violation du Computer Fraud and Abuse Act. Poursuivi par la justice fédérale américaine, il encourt jusqu'à 35 ans de prison. Il met fin à ses jours le 11 janvier 2013, à l'âge de 26 ans. Sa disparition est un drame humain et une immense perte pour les communautés du libre et de l'Internet ouvert. Je voudrais lui dédier cette chronique. J'ai eu la chance d'assister en décembre 2022 aux Open Science Days à l'UGA, l'Université Grenoble. La conférence de Sylvain Corlet sur l'avenir du projet Jupyter m'a donné envie de l'inviter pour un sujet long dans Libre à vous, sur ce logiciel libre, très utilisé dans l'enseignement et la recherche. On en reparle bientôt. Mais je retiens également l'intervention de Mélanie Clément-Fontaine, intitulée « Licence libre, open data et sciences ouvertes ». De quoi parle-t-on ? et celle de Roberto Di Cosmo sur Software Heritage, ou encore de Gaël Varocco sur Logiciel Libre et Sciences Ouvertes dans la Cité. Vous pouvez retrouver les supports et prochainement les vidéos de ces journées sur le site de l'événement dont je donne l'adresse dans les références de l'émission du jour. Ces conférences m'ont véritablement donné envie d'actualiser mes connaissances sur la science ouverte et notamment un site portail bien familier pour les chercheurs, quelle que soit leur discipline, HAL. HAL pour hyper article en ligne est le principal dépôt d'archives pour la recherche en France. D'après une note dans l'article Wikipédia consacré à la plateforme, l'acronyme HAL aurait été choisi en référence à l'ordinateur HAL 9000 du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Le site est accessible à l'adresse hal.science. Son objectif, affiché en page d'accueil, est de partager librement les savoirs. Chaque document sur HAL est indexé avec des métadonnées pour faciliter la recherche. Auteur, affiliation, titre, date de publication, mots-clés, résumé. HAL fournit également un identifiant unique, ID HAL, qui permet de résoudre les problèmes d'homonymie. Chaque auteur peut créer un CV en ligne avec la liste de ses publications. Un article déposé sur HAL n'est pas forcément soumis à la revue parlementaire. L'archivage sur la plateforme ne se substitue donc pas à la publication dans une revue à comité de lecture. Un peu comme sur Wikimedia Commons, pour Wikipédia, MediHAL est destiné aux images, vidéos et sons produits dans le cadre de la recherche scientifique. HAL permet également le dépôt de logiciels développés dans le cadre d'une activité de recherche. Elle est connectée à Software Heritage. La plateforme revendique aujourd'hui plus d'un million de documents scientifiques. Cela en fait un excellent observatoire de la science ouverte en France. Selon le site Ouvrir la science, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la science ouverte est la diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la recherche scientifique. Elle s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et autant que possible aux données, aux codes sources et aux méthodes de la recherche. Toutes les publications déposées sur HAL ne sont pas sous licence libre. Mais on constate ces dernières années une évolution des organismes de tutelle en faveur de l'ouverture. Ainsi, par exemple, l'Agence nationale de la recherche dispose d'un portail sur HAL. Dans le cadre de sa politique en faveur du libre accès aux publications et aux données de la recherche, elle demande à ce que les travaux issus de ces projets soient partagés sous licence Creative Commons BY. Plus récemment, c'est le CNRS qui encourage ses chercheurs à ne plus céder leurs droits d'auteur aux éditeurs des revues et à utiliser plutôt la licence Creative Commons BY. Dans son article pour Next Impact, Martin Clavet rappelle que cette licence permet à tout un chacun de rediffuser, traduire ou réutiliser à d'autres fins le travail des chercheurs du CNRS. Ce mouvement semble mondial. Aux États-Unis, une dizaine d'agences fédérales, dont la NASA et le NIH, ont déclaré 2023 « année de la science ouverte ». Après des décennies d'enclosure, sommes-nous à l'aube d'une véritable ouverture des résultats de la recherche scientifique ?
Eh bien, nous l'espérons, Jean-Christophe. Je vais juste préciser que nous avons parlé dans l'émission Libre à vous déjà de Science Ouverte, de Software Heritage, donc qui archive les logiciels du monde entier. Je ne vais pas vous donner tous les numéros. Hein. Vous allez sur libreavoue.org et vous mettez les mots-clés Science Ouverte, Software Heritage. Je précise juste que, comme tu as dédié ta chronique à Aaron Swartz, que le sujet principal de l'émission de la semaine dernière était animé et préparé par G avec Flore Vasseur et Amel Guiton, et qu'on peut retrouver d'ores et déjà le podcast sur libreavoue.org/164 et la transcription qui a été faite par Marie-Odile. Et dernière précision, tu as parlé de Martin Clavet. Donc Martin Clavet qui est journaliste scientifique et qui a rejoint récemment la rédaction de cet excellent magazine en ligne qui s'appelle Next Impact. Voilà, c'était les précisions que je voulais apporter. Et j'ai vu aussi Françoise Conil hocher la tête à plusieurs fois pendant ton intervention. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Françoise ?
Oui, bah évidemment, HAL est un outil important pour nous, surtout que on a une obligation quand même d'avoir toutes les publications qui sont de plus en plus sur HAL, parce qu'en fait, les chercheurs sont évalués sur ce qu'ils vont faire, entre autres, en publication, et donc, en fait, les publications vont être extraites de HAL, ce qui pousse et incite les gens à devoir utiliser aussi cette plateforme, parce que c'est là que vont être automatiquement récupérées les publications pour voir leur activité de publication.
D'accord. Écoutez, merci Françoise. Jean-Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, oui, simplement, effectivement, hein, ce dont témoigne Françoise, c'est ce que m'ont témoigné les chercheurs que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger lors des Open Science Day. Et le journaliste de Next Impact dont tu parles, Martin Clavé, était également présent aux rencontres. Et donc, voilà, des très beaux échanges sur les licences. Et j'espère qu'on pourra, dans une prochaine émission, inviter Sylvain Corlet à nous parler du projet sur lequel il travaille, qui est le logiciel libre Jupiter, un logiciel libre très utilisé dans l'enseignement et la recherche. Et la manière dont il en parle m'a vraiment donné envie de lui offrir le micro dans Libre à vous.
Eh bien écoute, c'est parfait Jean-Christophe, on prend note, en tout cas le micro t'est ouvert pour préparer ce sujet. Bah, écoutez, c'était la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Bah, écoute, au mois prochain pour ta prochaine chronique Jean-Christophe, et belle journée à toi.
Merci, bonne fin d'émission et au mois prochain.
Alors, nous approchons justement de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Chères auditrices et auditeurs, nous avons besoin de vous, encore oui. Nous vous donnons simplement 5 minutes de votre temps. L'équipe de l'émission souhaite en effet vous connaître et vous propose un questionnaire. Vos réponses à ce questionnaire sont très précieuses pour nous, elles nous permettront d'évaluer l'impact de notre émission et de mieux vous connaître. De votre côté, ce questionnaire est une occasion de nous faire des retours. Il est notamment particulièrement important pour nous d'avoir des réponses de la part de personnes qui nous écoutent sur la bande FM ou en DAB+. L'émission du jour va se terminer dans quelques minutes, donc dès la fin de l'émission, prenez juste 5 minutes pour répondre au questionnaire. Nous allons bientôt fermer les questionnaires. Pour répondre, pour cela, rendez-vous sur le site tout simplement libreavous.org et c'est le premier lien qui est affiché sur la page. Participez et ensemble, continuons d'améliorer notre émission. Alors sinon, dans les annonces, il y a l'apparition de la nouvelle édition du guide d'autodéfense numérique. Un guide qui fournit conseils et recettes adaptées pour s'orienter dans les méandres parfois hostiles de la jungle numérique. C'est sur guide.boom.org. Boom, c'est B-O-U-M. Sa version papier sera publiée dans l'édition Time Party en librairie à partir du 27 janvier 2023, mais nous aurons l'occasion de vous en reparler. Sinon, dans les événements à venir, et je vous rappelle que sur l'agenda du Libre, vous avez l'ensemble des événements à venir. Je vais juste parler rapidement donc des rencontres hivernales du Libre 2023 qui auront lieu fin janvier en Suisse. Il y a aussi un apéro April le 27 janvier à partir de 19h à Paris. Il y a un rendez-vous SPIP chez nos amis en Bretagne, donc le 27 janvier à Brest. Ce vendredi, il y a une table ronde sur le domaine de l'éducation avec en présence de Magali Garnero, présidente de l'April, donc à Beauvais, donc vendredi 20 janvier. Et puis pour tous les autres événements, vous allez sur le site de l'agenda du Libre, donc agendadulibre.org, et vous y trouverez les références sur tous ces événements et de bien d'autres événements. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. G, Françoise Conil, Jean-Christophe Becquet. Cette 165e émission a été mise en onde par Étienne Gonu. Merci Étienne. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, Olivier Grieco, Quentin Gibaud. Vous retrouverez sur notre site web libreavous.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 24 janvier à 15h30. Notre sujet principal portera sur Scénari, qui est une suite logicielle libre de conception et d'utilisation de chaînes éditoriales pour la création de documents multimédia. J'accélère pour tenir le délai. Et donc l'émission se termine dans quelques secondes. Donc, merci de prendre 5 minutes juste après l'émission pour répondre au questionnaire, pour qu'on vous connaisse et pour que vous nous puissiez faire des retours. Pour cela, rendez-vous sur libreavous.org. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 24 janvier. D'ici là, portez-vous bien.